Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce micro-Rebelle Hebdo en date du vendredi 17 avril 2020 à 18h. Micro-Rebelle Hebdo, c'est tous les vendredis à 18h donc, sur micro-rebelle.fr et sur l'appli de la Franf. Par ailleurs, nos amis de Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois nous rediffusent le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Nous les en remercions et nous saluons leurs auditrices et auditeurs. Enfin, un rappel, toutes nos émissions, tous nos reportages sont podcastables et téléchargeables sur micro-rebelle.fr. Pour aujourd'hui, bien entendu, ce micro-rebelle hebdo ne vous proposera évidemment pas d'agenda social et culturel et fera donc une large place aux chroniques et reportages de nos salariés et bénévoles concernant l'actualité, donc autour de la crise sanitaire en cours. L'actualité de cette semaine est riche en déclarations, à commencer par celle d'Emmanuel Macron le 13 avril. Mais on va commencer par le monde économique et le premier dirigeant du MEDEF, Geoffrey Roux de Bézieux. Il s'exprime dans les colonnes du Figaro et déclare, je cite, « Il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. » Et ensuite, je continue à citer le président du MEDEF, « L'important, c'est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse pour tenter d'effacer, dès 2021, les pertes de croissance de 2020. » Fin de citation. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, ne dit pas autre chose. Je la cite. « Il faudra mettre les bouchées doubles et probablement travailler plus que nous ne l'avons fait avant pour rattraper la perte d'activité induite par le confinement et le coronavirus. » Bref, il semble bien que du côté du patronat et du ministère de l'économie, le ton est donné. Dans Politis cette semaine, Sébastien Fontenelle nous donne à lire d'autres déclarations de même nature. Je le cite. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, proclame ces jours-ci, dans l'inimitable novlangue où le néolibéralisme travestit depuis 40 ans ses barbaries, qu'il faudra procéder au remboursement des dettes et se remettre dans une pente plus stable et plus propice au bon équilibre des finances publiques. Et Politis ajoute, traduction en français, haro sur les pauvres. Dans le même article de Politis, Sébastien Fontenelle cite d'autres dirigeants ou ministres. Par exemple, François Villeroy de Gâteau, gouverneur de la Banque de France, qui déclare « Nous devrons faire un effort budgétaire avec des dépenses plus sélectives. » Ou encore Bruno Le Maire, ministre des Finances, « À la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. » Le patron du MEDEF, la secrétaire d'État à l'économie, la présidente de la Banque Centrale Européenne, le gouverneur de la Banque de France et enfin le ministre des Finances, tout ce beau monde se mobilise et nous voilà donc prévenus. Ils comptent sur nous pour faire repartir la machine, ils comptent sur nous pour redémarrer leur système et selon eux, nous n'avons pas le choix, il faudra y aller. C'est sans doute à la lumière de ces déclarations qu'il faudra décrypter les annonces d'Emmanuel Macron le 13 avril. Il ne peut évidemment pas se permettre d'avoir le langage cru du président du MEDEF. Aussi, son discours est une sorte d'exercice d'équilibriste entre d'un côté le fait de satisfaire le patronat dans le but de relancer la croissance et de l'autre prendre en compte les impératifs de santé. Satisfaire le patronat, c'est ainsi qu'il faut entendre l'annonce du début progressif du déconfinement pour le 11 mai. Car cette décision de rouvrir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées à partir du 11 mai s'inscrit dans un objectif immédiat, permettre aux parents d'aller travailler et permettre la relance de la machine au plus grand bénéfice des milieux patronaux, des actionnaires. D'un autre côté, Macron doit s'efforcer de montrer qu'il prend en compte les impératifs sanitaires et notamment en écoutant le corps médical qui pousse à prolonger le confinement tant qu'un dépistage massif ne sera pas possible, faute de moyens. C'est ainsi que les écoles ouvriront, mais pas les cafés et les cinémas. On peut bien sûr imaginer où cette irresponsabilité peut nous conduire, au redémarrage, à la hausse de l'épidémie, avec le système de santé qui se trouve de nouveau débordé et de nouvelles périodes de confinement à prévoir. Au sujet, justement, d'un redémarrage à la hausse de l'épidémie, nous avons lu dans La Voix du Nord une interview de la médecin Anne Goffard. Elle est virologue au CHRU de Lille et au sein de l'Institut Pasteur de Lille. Elle s'exprime ainsi concernant cette possible deuxième vague. Les épidémiologistes qui modélisent la dynamique de l'épidémie nous disent qu'effectivement, il va y avoir une deuxième vague. La question c'est quand ? Ils expliquent que la sortie échelonnée du confinement, l'accès massif aux tests peuvent être des éléments qui peuvent la retarder. C'est important qu'elle arrive le plus tard possible pour que la recherche, vaccins, médicaments, ait le temps d'avancer, mais aussi pour que les services de soins puissent encaisser la vague en cours, puis se reposer et se réorganiser. Mais oui, il faut s'attendre et se préparer à une nouvelle vague. Fin de citation. Voilà. Et c'est donc dans ce contexte que les écoles vont rouvrir le 11 mai, écoles dans lesquelles il sera très compliqué de garantir la mise en place des gestes barrières. On reste dans La Voix du Nord avec Anne Gaillard, toujours virologue au CHRU et à l'Institut Pasteur de Lille. Anne Gaillard évoque les causes possibles de l'émergence du coronavirus. Je cite « On sait que le coronavirus, très présent chez les animaux, notamment les mammifères, peuvent infecter les humains par ce qu'on appelle les franchissements de barrières d'espèces. Or, un des facteurs qui favorise cette émergence, c'est lorsque des humains vont empiéter sur les territoires des animaux. C'est, par exemple, la déforestation, la consommation d'animaux sauvages, utiliser des animaux sauvages pour les domestiquer. Et Anne Gaillard ajoute prudemment, on sait que les comportements humains de ce type se développent. Et pour être plus précise, elle ajoute, il faut comprendre que tout ce qui impacte le dérèglement écologique a aussi des conséquences sanitaires, avec l'émergence de pathogènes animaux. On est en train de le vivre. Sauf un sursaut politique, dans le respect de la vie animale et de la vie sauvage, pour les éviter au maximum, il y en aura d'autres, et il faudra s'y préparer. Fin de citation. Oui, un sursaut politique. Mais peut-il y avoir un tel sursaut politique de la part d'une classe politique qui fait peser le déconfinement sur des comportements individuels plutôt que de remettre en cause la loi du profit. Bref, il faut relancer la croissance, il faut reprendre le boulot. Michelin redémarre, Toyota à Onin, près de Valenciennes, redémarre le 21 avril, et les autres, PSA, Renault, sont dans les starting blocks. La Voix du Nord, justement, s'est rendue à Toyota Onin, où la production va reprendre dès le 21 avril. La Voix du Nord ajoute « Tous les syndicats, à l'exception de la CGT, ont donné leur accord à une reprise avec des volontaires et un dispositif mis en place pour assurer la sécurité des salariés. » Et concernant l'opinion des salariés, le journal indique, je cite « La direction se félicite de l'adhésion des salariés dans ce communiqué. 85% de ceux contactés mercredi ont confirmé leur disponibilité pour une reprise la semaine prochaine. C'est du volontariat obligatoire. Les chefs appellent pour travailler le jeudi et le vendredi. Une autre équipe sera mobilisée la deuxième semaine, les lundis, mardis, puis les mercredis et jeudis. Ça sera au tour de ceux qui ne sont pas trop chauds de reprendre. La direction compte sur les premiers pour rassurer les plus réticents. » Un peu plus loin, la Voix du Nord semble se désoler. La direction confirme ne pas avoir fixé d'objectif de production pour les premiers jours. Du retard sera de toute façon pris dans le lancement de la Yaris 4, reporté de juin à septembre. Fin de citation. Cet article de La Voix du Nord nous permet bien sûr d'apprécier la novlangue managériale à l'œuvre chez Toyota, en particulier au travers de cette charmante conception du volontariat obligatoire. En pratique, ce que signifie ce volontariat obligatoire, c'est que les ouvriers qui ne veulent pas revenir ont le choix entre un arrêt maladie prescrit par le médecin traitant, ou un pointage en absence injustifiée pouvant conduire à un licenciement. Tout ça aide à être volontaire, encore que les protestations sont nombreuses. Au niveau syndical, seule la CGT a voté contre la reprise, les autres syndicats ayant refusé de prendre part au vote. On suivra attentivement comment se passe cette reprise volontaire obligatoire. On va terminer ce petit tour de l'actualité, au travers de la presse, par cette brève dans la Voix du Nord concernant les migrants de Calais qui sont confinés au stade couvert de Liévin. À l'origine, il s'agit d'opérations de mise à l'abri des migrants de Calais dans différents centres, dont le stade couvert de Liévin, qui a ainsi été réquisitionné par la préfecture. Je vous lis cette brève de la Voix du Nord. Le Rassemblement national dénonce l'arrivée de migrants. Liévin, quelques heures après l'arrivée des premiers migrants de Calais, confinés au stade couvert, le Rassemblement national s'est fendu d'un communiqué. Nous dénonçons fermement cette décision qui a été prise sans aucune concertation et sans solliciter l'avis des Liévinois. Louis Monpeux, candidat malheureux au municipal, n'y va pas avec le dos de la cuillère en parlant d'un risque sanitaire pour les Liévinois. Le Rassemblement national fait part également de sa peur de voir ce centre d'accueil se pérenniser. Rappelons que le stade couvert a été réquisitionné par la préfecture le temps du confinement pour assurer la mise à l'abri des migrants et contenir la propagation du coronavirus. Quelques commentaires concernant cette brève de la Voix du Nord. On n'est évidemment pas surpris des déclarations du Rassemblement national. Tout d'abord par leur outrance, à propos du risque sanitaire pour les Liévinois. Et puis par le fond de cette déclaration. En quelque sorte, les étrangers seraient un vrai danger pour les Français. Ceci étant, regardons-y de plus près. Comment s'est propagé le coronavirus? On sait qu'il est parti de Chine. Et de là, il s'est diffusé dans le monde entier en s'accrochant à l'un des 130 passagers et passagères qui prenaient l'avion auparavant chaque seconde dans le monde. C'est ainsi que le virus a atteint toutes les régions du monde en moins de 3 mois. Et aujourd'hui, on peut vérifier que les principaux foyers d'épidémie du Covid-19 coïncident avec les 3 pôles du réseau mondial de transport aérien, Amérique du Nord, Europe et Asie orientale. En clair, ce ne sont pas les migrants et migrantes qui amènent le coronavirus aux Européens, mais bien plus sûrement l'inverse. On peut rapprocher ce constat des propos qui nous ont été tenus à Micro Rebelle à l'occasion de notre reportage sur le coronavirus au Togo. La peur des Togolaises et Togolais, c'est que l'homme blanc leur amène le virus. Alors le Rassemblement national peut bien donner dans l'abject et désigner ses boucs émissaires. Les faits sont là, ce ne sont pas les migrants qui amènent le virus à Liévin. C'est important que nous le fassions savoir. Pour amorcer le reportage qui va suivre, je vous propose un extrait du Monde diplomatique de ce mois d'avril 2020, un extrait de l'édito de Serge Halimi. Corollaire du rester chez vous et de la distanciation, l'ensemble de nos sociabilités risque d'être bouleversé par la numérisation accélérée de nos sociétés. L'urgence sanitaire rendra encore plus pressante ou totalement caduque la question de savoir s'il est possible de vivre sans Internet. Chacun doit déjà détenir des papiers d'identité sur lui. Bientôt, un téléphone portable sera non seulement utile, mais requis à des fins de contrôle. Et puisque les pièces de monnaie et les billets constituent une source potentielle de contamination, les cartes bancaires, devenues une garantie de santé publique, permettront que chaque achat soit répertorié, enregistré, archivé. Crédit social à la chinoise ou capitalisme de surveillance, le recul historique du droit inaliénable de ne pas laisser trace de son passage quand on ne transgresse aucune loi s'installe dans nos esprits et dans nos vies sans rencontrer d'autre réaction qu'une sidération immature. Avant le coronavirus, il était déjà devenu impossible de prendre un train sans décliner son état civil. Utiliser en ligne son compte en banque imposait de faire connaître son numéro de téléphone portable. Se promener garantissait qu'on était filmé. Avec la crise sanitaire, un nouveau pas est franchi. À Paris, des drones surveillent les zones interdites d'accès. En Corée du Sud, des capteurs alertent les autorités quand la température d'un habitant présente un danger pour la collectivité. En Pologne, les habitants doivent choisir entre l'installation d'une application de vérification de confinement sur leur portable et des visites inopinées de la police à leur domicile. Par temps de catastrophe, de tels dispositifs de surveillance sont plébiscités, mais ils survivent toujours aux urgences qui les ont enfantés. Fin de citation. En perspective de cet édito, nous donnons la parole en audioconférence à Arthur, Gaspard et Valentin. Ils travaillent dans l'informatique ou sont utilisateurs du numérique ou tout simplement, ils s'efforcent d'exercer un certain regard critique sur leur environnement. L'ensemble de ce très riche échange est disponible en podcast ou en téléchargement sur notre site micro-rebelle.fr. Du fait des contraintes de temps de ce micro-rebelle hebdo, nous vous en avons juste proposé un extrait.
Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait maintenant plus d'un mois qu'on est tous confinés chez nous. Les décisions du gouvernement, elles bouleversent effectivement nos habitudes, nos comportements, et surtout d'un point de vue du numérique, hein, elles bouleversent notre rapport au numérique. Télétravail, continuité pédagogique, réunions professionnelles, apéro en visioconférence, séances de sport à distance. Tout ça, ça devient un peu notre quotidien depuis plusieurs semaines maintenant. Mais effectivement, tous ces effets du confinement, est-ce qu'ils n'amplifient pas la numérisation de nos vies? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ce qui se joue durant cette période exceptionnelle que nous vivons. Donc pour cela, on a deux invités, Gaspard et Valentin. Donc Gaspard, toi, tu travailles pour une régie de distribution d'électricité. Bonjour Gaspard, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est exactement ?
Bonjour à toutes et tous. Alors, une régie de distribution d'électricité, c'est un modèle de service public local pour s'occuper, en l'occurrence, du réseau électrique. Alors, ça peut être à l'échelle d'une ville, d'une intercommunalité ou même d'un département. En l'occurrence, pour moi, il s'agit du département des Deux-Sèvres.
Merci. Et on a Valentin. Donc toi, Valentin, tu travailles pour CLIS21. Donc c'est une coopérative informatique qui est plutôt basée dans le bassin minier, donc beaucoup plus proche. Tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui, bonjour. Effectivement, on est une entreprise, une coopérative d'informatique libre. On développe et on fournit du service informatique avec uniquement des logiciels libres. Donc les logiciels libres, c'est des logiciels alternatifs aux logiciels qu'on connaît généralement, c'est les logiciels comme LibreOffice, Mozilla Firefox, qui ont d'autres modes de développement, d'autres rapports aux produits de ce qu'un logiciel, et qui sont généralement gérés par des communautés à des fins non marchandes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on essaye de promouvoir aujourd'hui.
Merci Valentin. Donc on comprend que c'est des questions, les questions qui touchent au numérique, que ce sont des sujets qui vous intéressent particulièrement. Avec ce confinement, on assiste à une généralisation du télétravail et donc du coup on doit faire face à l'usage contraint ou pas de nouveaux outils numériques. Quel changement y voyez-vous ?
Effectivement, il y a des changements qui sont relativement importants, et le changement le plus important, je dirais, c'est qu'avec le confinement, on se retrouve tous à travailler avec nos propres outils à nous sur nos machines personnelles. On se retrouve dans un coin de l'appartement sans être particulièrement préparé au télétravail, c'est-à-dire que je me retrouve avec mon ordinateur, ma connexion internet, mon adresse IP, et je dois utiliser des logiciels que j'ai pas forcément choisis, que mon entreprise me demande d'utiliser. Et en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas toujours des logiciels qui sont bénéfiques pour les usagers, c'est-à-dire que c'est des logiciels très souvent qui sont propriétaires, qui sont demandés par l'entreprise et qui ne sont pas respectueux particulièrement des données personnelles des gens. Et ça pose problème parce que vous vous retrouvez avec des données personnelles, justement, que vous utilisez dans un cadre personnel et vous êtes obligé de fournir un certain nombre d'informations pour travailler.
Moi, je vois ça avec une personne qui, avec qui j'habite et qui travaille dans l'éducation nationale. Et on se voit clairement que ce que tu décris, là, Valentin, le fait de ne pas être préparé, à la fois c'est fait individuellement, mais c'est l'effet aussi à l'échelle du corps d'une institution publique qui est l'éducation nationale, puisque les outils que la personne avec qui je vis sont. Qui ont servent en fait à établir un contact avec les élèves et les professeurs ont pas du tout été bien dimensionnés. Ils sont accessibles une partie de la journée seulement et ils supportent pas l'afflux simultané de tous les élèves. Et du coup, la conséquence, c'est que les enseignants sont souvent utilisés de basculer sur des outils propriétaires qui ne sont pas forcément respectueux des données personnelles, des contenus pédagogiques, mais aussi des informations confidentielles et personnelles des élèves.
Donc justement, tu citais l'exemple de l'éducation nationale, Gaspard, et on s'aperçoit que pour reproduire ces situations d'échange réel, on est presque obligé de passer par la visioconférence, parce que c'est pratique, c'est pragmatique, mais quelles sont les conséquences que ça entraîne?
Bah déjà d'un point de vue écologique, il y a un très bon rapport de Shift Project sur la sobriété numérique qui est sorti il y a quelques temps. Bon, il n'est pas actualisé forcément aux événements récents qui ont complètement bouleversé un peu l'échiquier des consommations des usages numériques, mais donc ça donne une idée avant. Et déjà à ce moment-là, le numérique, de manière générale, il émettait 4% des gaz à effet de serre mondiaux et la consommation énergétique du numérique s'accroissait de 9% par an. Avec des outils vidéo qui sont très énergivores, comparé au son, où la vidéo c'est 100 fois plus de consommation de données que le son par exemple, on voit bien que la visio, on ne peut pas appeler ça de support qui est sobre, écologiquement parlant en tout cas.
Et je pense qu'il faut aussi souligner l'aspect prédateur aussi de ces outils de vidéoconférence, en tout cas pour la plupart, et ceux qui sont le plus en vogue aujourd'hui. Pour les citer, on peut parler de Skype ou de Zoom, qui sont beaucoup utilisés par les entreprises. C'est des outils qui sont quand même relativement prédateurs sur le plan des données personnelles, c'est-à-dire que vous les utilisez, et ensuite les logiciels vont aussi se charger de récupérer l'intégralité des données, c'est-à-dire de ce qui est écrit sur le chat, vos heures de connexion, les mots qui sont dits, les habitudes, la fréquentation que vous avez de ces outils-là, pour analyser le tout et ensuite s'en servir ensuite à des fins commerciales. Donc il faut bien comprendre aussi qu'il y a ces outils-là. Et généralement, c'est aussi des outils qui sont, on dit, propriétaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent et ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de regarder plus largement sur votre ordinateur, regarder des dossiers dans votre ordinateur, regarder des journaux de fichiers qui sont dans votre ordinateur? On n'a pas moyen de le vérifier parce que le code est complètement verrouillé. Et donc on ne peut pas avoir une très grande confiance dans ces outils. Et c'est bien contre ça qu'on essaye d'aller, nous en tout cas à Clic 21 et plus largement dans le monde du logiciel libre, où on essaye de promouvoir d'autres outils qui sont justement les logiciels libres. Pour bien comprendre, hein, les logiciels libres, ce sont des outils informatiques dont le code source est visible sur Internet. Chacun peut y accéder, le lire, mais il peut aussi, s'il le veut, le modifier, proposer des modifications, le redistribuer. Voilà, il y a tout un tas de règles qui doivent être respectées pour que le logiciel soit libre. Mais une des règles fondamentales, c'est vraiment que le logiciel soit visible et qu'on puisse lire le code. Alors j'en conviens, moi en tout cas, je ne suis pas capable de lire le code informatique, mais ce qui est intéressant, c'est que on peut faire confiance au fait qu'il y ait un nombre suffisant d'informaticiens qui passent régulièrement sur les grands logiciels libres pour valider que le logiciel fait bien ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits programmes cachés qui vont être néfastes pour votre sécurité, qui vont vous donner un virus, qui vont vous donner des choses dont vous ne voulez pas. Là, on peut faire confiance en fait au logiciel puisque on en connaît la recette. Et c'est bien ce genre d'outils qu'on essaye de promouvoir, parce que nous, on estime que seul en ces outils, on peut avoir confiance. Si l'outil n'est pas libre, alors on ne sait pas exactement ce qu'il fait, et potentiellement, il fait des choses qui sont néfastes à l'utilisateur. Et c'est bien le problème avec ces grands outils de visioconférence qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Les plateformes essayent effectivement de dire que non, elles utilisent plus ou moins les données personnelles. On a noté que Zoom avait changé 3 fois les conditions générales d'utilisation en une semaine. On a quand même des choses qui sont assez inquiétantes. On ne sait pas vraiment comment ça marche. Les choses ne sont pas très très claires. Donc effectivement, on essaie de promouvoir d'autres outils respectueux de vos ordinateurs et de vos données. Au premier desquels, Jitsi, un logiciel de visioconférence qui est libre et potentiellement qui peut être décentralisé, que vous pouvez utiliser sur les serveurs des personnes dont vous avez connaissance et en qui vous avez confiance. C'est probablement une des bonnes solutions.
Au-delà de l'impact sur les données personnelles et de l'impact écologique purement lié à l'utilisation de cette visioconférence, faut avoir en tête que le modèle de vente des données dont parle Valentin, ça s'inscrit de manière plus générale dans ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. C'est toute cette ce modèle de création de valeur sur les données qui a pris une ampleur énorme ces dernières années là. Les données, c'est le nouvel or noir en fait pour beaucoup. Les données publicitaires, elles vont aussi permettre de créer des nouveaux marchés et de pouvoir cibler précisément ce que vous, consommateurs, vous avez envie d'avoir, et donc de manière générale à augmenter la consommation et donc le modèle de grande consommation et les pollutions que ça engendre dans d'autres domaines qui sont même pas forcément liés au numérique au départ. Donc l'utilisation en fait d'outils propriétaires qui utilisent nos données, in fine, c'est faire partie d'un grand tout, d'être acteur d'un grand tout qui pousse à plus consommer.
Donc, on comprend bien pourquoi toutes ces applications, enfin, toutes ces entreprises qui développent ces applications qui ne sont pas des logiciels libres sont si intéressées par ces données. Mais qu'est-ce qu'il en est aussi des États? Est-ce que les États pourraient récupérer et utiliser ces données?
Effectivement, on voit aujourd'hui beaucoup les États parler d'applications et justement de données personnelles. Et effectivement, il y a probablement un risque, c'est-à-dire que pas plus que les entreprises, on ne sait pas ce pourquoi les États utiliseront nos données. Et surtout donner à l'État beaucoup, beaucoup un regard très important sur nos vies. Et donc sur nos données, enfin nos données en tout cas reflètent beaucoup ce que sont nos vies, c'est donner un pouvoir très important à l'État. Et on outille l'État pour que plus tard il puisse agir de façon très forte. Aujourd'hui, on est dans un État qu'on dit démocratique, républicain, ça ne sera pas forcément toujours le cas. Et outillé comme il est, si l'État devenait plus véhément, un peu moins respectueux de nos libertés, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis à se faire en termes de répression, parce que l'État a une vision extrêmement fine de nos vies, de nos comportements, et donc il y a tout intérêt à limiter le potentiel de données que l'État peut acquérir sur nous.
D'accord, et on peut aussi évoquer les outils, au-delà des outils de visioconférence, on entend de plus en plus le gouvernement nous parler d'applications, cette fameuse application Stop Covid, en tout cas ce serait probablement le nom, qui permettrait de lutter en gros contre le coronavirus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment une fuite en avant vers la technologie. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que dans la tête de nos gouvernants, et de façon générale, peut-être dans la tête de beaucoup de gens dans la société, on a un espoir que la technologie nous sauvera. C'est un espoir qui n'est pas nouveau, qu'on ne retrouve pas uniquement avec le Covid. On a un peu ce même espoir pour les questions climatiques, par exemple. On espère trouver des solutions technologiques qui qui vont nous permettre de trouver des solutions au stockage de carbone. Et là, on est exactement en fait dans la même logique. Mais il faut bien dénoncer le fait que ce soit simplement une illusion. C'est-à-dire que ce qui permet vraiment de juguler la pandémie, c'est l'utilisation massive de tests, de masques, c'est le dépistage des populations, c'est surtout des moyens physiques et concrets, c'est mettre de l'argent dans l'hôpital, parce qu'on est vraiment sur une crise de la pénurie, en fait, c'est vraiment la pénurie dans les hôpitaux qui font qu'il y a autant de victimes. C'est pas le manque d'informatique. Et donc l'ajout d'informatique et de numérique à tout ça ne permettra pas de juguler la pandémie. En revanche, la pandémie est un très bon moyen pour faire passer rapidement beaucoup, beaucoup de lois, faire passer beaucoup et accélérer la mise en place de l'informatique, du numérique et aller plus avant dans ce rêve technologiste. Le gouvernement, par exemple, pour n'en citer qu'un, a autorisé dans la loi sur l'état d'urgence sanitaire le 23 mars l'accélération du dévelop et le développement des antennes 5G en autorisant plus rapidement leur mise en place et en réduisant les éventuels frottements, c'est-à-dire les oppositions que pouvaient donner les maires ou les populations locales. Là, le gouvernement a donné carte blanche aux opérateurs pour développer la 5G dans le cadre de la crise, du Covid.
Bah pour voir par rapport à l'application Stop Covid dont tu parlais, Arthur, il y a un protocole assez précis qui est pressenti pour être utilisé dans le déploiement de cette application, qui s'appelle le protocole DP3T. Bon, c'est un peu barbare, mais si ça peut servir à regarder un petit peu comment ça marche, ce truc. Il y a un très bon thread Twitter d'un informaticien et spécialiste des questions de données qui s'appelle Rand Indy, qui explique très bien comment ça fonctionne. En gros, pour le dire en deux mots, ça utilise le Bluetooth de notre smartphone. Il faut en avoir un déjà, hein. Et ce Bluetooth qui est activé tout le temps va permettre, dans un rayon de quelques mètres, de savoir qui est passé proche de nous. Et si la personne qui a été proche de nous s'avère être infectée à un moment donné, eh bien, on sera prévenu qu'une personne autour de nous a été infectée, sans savoir laquelle c'est. C'est un peu comme ça que c'est censé fonctionner. Mais ce qu'on nous dit pas tant que ça pour l'instant, c'est que pour remplacer un peu le confinement actuel et pour pouvoir redémarrer l'économie, on a besoin d'un nombre important de personnes qui utilisent l'application. Alors le gouvernement et notamment Emmanuel Macron dans son discours du 13 avril insistait sur le fait que ça serait quelque chose qui concernerait les personnes volontaires. Mais il y a une étude dans Science qui est sortie il y a quelques jours, dans la revue Science, qui disait qu'il fallait 60% d'utilisateurs sur un territoire pour que cette application soit efficace. En comparaison à Singapour, sur lequel il n'y a pas eu d'obligation pour l'utilisation d'une application similaire, il n'y a eu que 15% des personnes qui l'ont spontanément installée. Alors que c'est un pays qui dispose d'un très bon taux de smartphones par rapport aux personnes dans le pays. Donc on voit bien que si c'est pas obligatoire, cette application elle va pas être très efficace.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Called to write the song, to share a message, answer the question, what do I believe? December 21st, 2012 means, do I think humanity will succeed? Do I think we will get swallowed by the sea? Let's trace it to hell in a handbag is what we're facing. Greed capitalism has us replacing. Want over need, products oversee. The poor and the weak lead, the rich and ignorant feed. But there's another message being told. Not one of doom and gloom, but our collective power to behold. We must unify. Sound my pain. instead use your heart. It's a community, you know it's all fake. Babylon don't want unity, want your mind an earthquake. Don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls, we run deep. White buffalo calf, women leading love armies. Red road below feet, we are rainbow warriors. Replacing the warriors, write a whole new story up. Hold peace in our heart, be our own particle accelerator and press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy, many say we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. You'll find the craze part of the plan, which you're dumb, scared, and in a daze. We must unify, oh. Means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending. We may lose power in the final hour. What message are you sending? If you don't dig transcendence, then try these 10 commandments. 1, be grateful and fun, love all like never before. 2, forgive all in yourself, forget, set, let's go. 3, let be, let live, honor, exchange, accept, give. 4, transmute fear, just feel it, then let go. 5, honor feminine within all and let it flow. 6, like Toltec function, don't take it personal or make assumptions. 7, respect Mother Earth and all of nature. 8, don't hurry your worry, it's using your imagination for what you don't want. 9, live from your heart and your truth and don't front. 10, don't let the voices inside stop ya, you are God, gotcha.
We must unify, oh.
We have a tremendous opportunity to shift from the love of power to the power of love. I, for one, will be doing all I can to envision and create the rebirthing of a planet that works for all.
Musique libre sur Micro Rebelle avec la rappeuse américaine Killie Mays. Elle publie tous ses titres sous licence Creative Commons et elle a même déclaré « Je ne fais pas confiance à l'industrie musicale en général. Je ne pense pas qu'elle valorise la musique de l'artiste. » Creative Commons est une des nombreuses façons que nous avons eues de faire les choses différemment. Je la recommande vivement. D'une manière générale, ces chansons abordent les droits sociaux, la politique, le féminisme, l'écologie, comme celle que nous venons d'entendre, 2012, ou encore le racisme, la pauvreté. On termine cette émission par une chronique autour du 40e anniversaire de la mort de Jean-Paul Sartre.
Des milliers de Parisiens en un immense cortège ont accompagné cet après-midi à Paris la dépouille de Jean-Paul Sartre jusqu'à sa sépulture. Un cortège qui a mis plus de 2 heures pour aller de l'hôpital Brousset au cimetière Montparnasse.
Il y a exactement 40 ans, le 15 avril 1980, Jean-Paul Sartre décédait et ses obsèques se tenaient le 19 avril 1980. L'extrait sonore que nous venons d'écouter concernant ses obsèques nous vient des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Cette émission est donc consacrée à Jean-Paul Sartre. Sur notre site micro-rebelle.fr, vous pouvez compléter cette étude en téléchargeant ou en podcastant d'autres extraits des archives de l'INA ou d'une émission de radio enregistrée par Radio-Canada dans lesquelles Jean-Paul Sartre s'exprime sur « Qu'est-ce qu'un intellectuel ?», sur la guerre du Vietnam, sur le tribunal Russell, présidé par Jean-Paul Sartre pour juger la politique américaine au Vietnam, sur le refus de Jean-Paul Sartre du prix Nobel de littérature, et enfin sur l'Algérie, la torture, le racisme. N'hésitez pas à écouter Jean-Paul Sartre dans ses différents extraits. Le simple énoncé des interventions de Jean-Paul Sartre, tel que je viens de l'évoquer, suffit à indiquer à quel point était importante pour Sartre la question de l'engagement. Pour Sartre, un intellectuel est engagé. Il est en situation. Et il faut malheureusement reconnaître que, après la mort de Sartre, cet aspect de l'engagement des intellectuels a complètement disparu. Avec quelques rares exceptions, on peut par exemple se référer à Pierre Bourdieu, mais dans les faits, aujourd'hui, ce type d'intellectuel n'existe plus. En 2020, 40 ans après la mort de Sartre, les intellectuels se veulent avant tout les idoles des médias et les courtisans du pouvoir, un pouvoir qu'ils tiennent à défendre, de même que chacune de leurs interventions justifie la société telle qu'elle est, avec ses inégalités et ses oppressions. Bref, Sartre est bien mort. Il n'est pourtant pas dit que ses écrits, ses prises de position, ses postures ne continuent pas à nous inspirer et à nous mobiliser. En témoigne la volonté de changement qui secoue régulièrement la société française, envers et contre les intellectuels médiatiques et les éditocrates de 2020. L'engagement de Sartre, on le voit tout d'abord dans son métier, entre guillemets, d'écrivain. On va écouter deux passages de ce qu'écrivait Sartre à ce sujet en 1947. Le premier extrait concerne la prose et le prosateur.
La prose est utilitaire par essence. Je définirais volontiers le prosateur comme un homme qui se sert des mots. Monsieur Jourdain faisait de la prose pour demander ses pantoufles et Hitler pour déclarer la guerre à la Pologne. On est en droit de demander d'abord au prosateur « À quelle fin écris-tu ? Dans quelle entreprise es-tu lancé ? Et pourquoi nécessite-t-elle de recourir à l'écriture ?» Et cette entreprise, en aucun cas, ne saurait avoir pour fin la pure contemplation.
Un deuxième extrait maintenant concernant l'écrivain engagé.
L'écrivain engagé sait que la parole est action. Il sait que dévoiler, c'est changer, et qu'on ne peut dévoiler qu'en projetant de changer. Il a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société et de la condition humaine. Il sait qu'il est l'homme qui nomme ce qui n'a pas encore été nommé ou ce qui n'ose dire son nom. Il sait qu'il fait surgir le mot d'amour et le mot de haine, et avec eux l'amour et la haine entre des hommes qui n'avaient pas encore décidé de leurs sentiments. Il sait que les mots, comme dit Brice Parrain, sont des pistolets chargés. S'il parle, il tire. Il peut se taire, mais puisqu'il a choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme, en visant des cibles et non comme un enfant au hasard, en fermant les yeux et pour le seul plaisir d'entendre les détonations. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s'en puisse dire innocent.
Jean-Paul Sartre a écrit deux romans, La Nausée en 1938 et Les Chemins de la Liberté en trois tomes. Et il a écrit de nombreuses pièces de théâtre. Toujours, Sartre reste, selon ses propres termes, un écrivain qui résiste plutôt qu'un résistant qui écrit comme il aurait voulu être. La résonance politique de son œuvre est indéniable. On a du mal à choisir un exemple, de peur d'être trop restrictif. Évoquons par exemple « La putain respectueuse », une pièce sortie en 1946 avec en toile de fond le racisme aux États-Unis. Cela peut paraître lointain, mais rappelons-nous à quel point les États-Unis étaient racistes et ségrégationnistes envers les Noirs. Voici ce que disait Sartre à propos de la putain respectueuse.
Quand j'ai fait représenter cette pièce, on a dit que j'avais montré bien peu de reconnaissance envers l'hospitalité américaine. On a dit que j'étais anti-américain, je ne le suis pas. Je ne sais même pas ce que ce mot signifie. Je suis anti-raciste car je sais ce que le racisme, lui, signifie. Mes amis américains, tous ceux que j'ai aimés parmi ceux qui m'ont reçu, sont également anti-racistes. Je suis sûre que je n'ai rien écrit qui leur déplaise ou qui me révèle comme ingrat envers eux. On a dit que j'avais vu la paille dans l'œil du voisin et non la poutre dans le mien. Il est vrai que nous autres Français avons des colonies et que notre comportement y laisse à désirer. Mais quand il s'agit d'oppression, il n'y a plus ni paille ni poutre. Il faut la dénoncer partout où elle existe. L'écrivain ne peut pas accomplir grand-chose dans le monde. Il peut seulement dire ce qu'il a vu. J'ai attaqué l'antisémitisme. Aujourd'hui, dans cette pièce, j'attaque le racisme. Demain, je consacrerai un numéro de ma revue à attaquer le colonialisme. Je ne crois pas que mes écrits ont beaucoup d'importance, ou qu'ils changeront quoi que ce soit, ou même qu'ils me feront beaucoup d'amis. Tant pis, je fais mon travail d'écrivain. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel temps et dans n'importe quel lieu, l'homme est libre de se choisir traître ou héros, lâche ou vainqueur. En choisissant pour lui-même l'esclavage ou la liberté, il choisira du même coup un monde où l'homme est libre ou esclave. Et le drame naîtra de ses efforts pour justifier ce choix. En face des dieux, en face de la mort ou des tyrans, une même certitude, triomphante ou angoissée, nous reste, celle de notre liberté.
Au-delà de l'écrivain engagé, Sartre pose la question de l'engagement de l'intellectuel dans les luttes qui se mènent à son époque. Il est longtemps compagnon de route du Parti communiste français, avec lequel il rompra en 1968 après l'intervention des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. Il décide ensuite d'assurer la direction du journal maoïste La Cause du Peuple et, en 1973, annonce la création du journal Libération. Il préside le tribunal Russell pour juger les crimes de guerre perpétrés au Vietnam. Il s'engage contre la guerre et la torture en Algérie. En 1964, il obtient le prix Nobel de littérature, prix qu'il refuse, car ce prix récompense les écrivains bourgeois auxquels il refuse de s'identifier. Il vous est possible d'écouter sur micro-rebelle.fr plusieurs interventions de Sartre concernant ses différents engagements. Une autre image fameuse est restée. Le 21 octobre 1970, Sartre est debout sur un tonneau devant les ouvriers de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. On l'écoute.
Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au XIXe siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement.
Une nouvelle lecture maintenant, extraite de « On a raison de se révolter ». On est en 1973, Sartre évoque la lutte des ouvrières et ouvriers des usines LIP, et notamment tout ce que cette lutte recouvre en matière d'autogestion.
C'est à la fois le sens profond de LIP et l'unité qui est dans la nouvelle gauche, l'idée de la suppression de la hiérarchie, de l'égalité absolue des travaux, des hommes travailleurs. C'est l'idée qui me paraît essentielle chez LIP et c'est l'idée que les trotskistes et les Mao défendaient contre ordre nouveau. Je pense qu'il y a eu effectivement à gauche une discussion sur l'autogestion, surtout lorsqu'on l'a faite en Yougoslavie. Donc ils sont au courant de la chose. Mais par contre, pour les ouvriers de LIP, ce n'est pas du tout cela. C'est vraiment dans le concret qu'ils voient l'absurdité d'une hiérarchie et de salaires différents. Ils voient l'égalité des hommes qui travaillent et cela, c'est concret. Avant la grève, quand ils voient passer un cadre sur leur lieu de travail, ils trouvent ça cocasse. Mais après la grève, après la reprise de l'usine, c'est l'ensemble des rapports entre cadres et ouvriers, cadres et patrons, qui leur apparaît abstrait et absurde. Ils ne voient pas que cela corresponde à quelque chose. Ils voient un système, très loin de l'humain, qui donne à des gens des supériorités sur d'autres sans que cela soit fondé sur une supériorité mentale ou physique. Il y a donc réellement, chez LIP, un souhait de réaliser cette égalité. Et puis, il y a eu des expériences comme celle de Yougoslavie, ou c'est plutôt le gâchis, qui sont quand même venues jusqu'ici et ont fait l'objet de discussions. Ce qui fait que l'idée chez LIP n'est pas complètement originale, encore qu'à mon idée, elles ne viennent pas de Yougoslavie ou des discussions qui ont eu lieu en France à ce sujet. Les LIP ont trouvé cela eux-mêmes. Cela me paraît assez typique, mais cela rappelle aux vieux de vieilles idées sur l'autogestion. C'est cela qui mettra le patronat en folie. Lorsqu'il s'apercevra que cela peut se faire partout et qu'alors le patronat devient inutile et même nuisible, alors il attaquera. Et ce sera une lutte très violente en perspective. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à une première tentative qui va échouer parce que l'usine sera rachetée et parce qu'il y aura des forces de droite qui seront contre. Si tu veux, je trouve que LIP est un fait très particulier, très important, auquel d'ailleurs les journaux ont donné beaucoup de place et qui restera dans la mémoire ouvrière.
Deux lectures pour clôturer cette émission. On est toujours en 1973-1974, soit quelques années à peine après mai 68. C'est évidemment une période qui peut nous paraître très lointaine. Depuis, la crise du capitalisme s'est aggravée, le néolibéralisme déferle avec ses cures d'austérité, ses services publics bradés et ses appels au renoncement sous l'angle « il n'y a pas d'alternative ». Le premier extrait concerne l'intellectuel politique en 1973-1974, selon Sartre.
L'intellectuel politique que nous envisageons pourra être n'importe quel ouvrier. Il saisira mieux les principes à partir desquels il pense que telle idée est juste, que telle action est valable, et en se référant à ces principes, il sera un intellectuel. Tandis qu'aujourd'hui, l'intellectuel n'a souvent que mépris pour l'homme politique, et l'homme politique considère les intellectuels comme négligeables. C'est là que nous en sommes aujourd'hui, avec cette particularité que l'homme militant révolutionnaire naît de la synthèse du politique et de l'intellectuel. Il y a des ouvriers qui disent « Moi, je ne parle pas, je ne sais pas parler, je dis ce que je pense, c'est tout. » Et qui sont, très souvent, les hommes les plus intellectuels de leur groupe, par la manière dont ils discutent, dont ils présentent leurs hypothèses, etc. Il faut bien voir que la scission du politique et de l'intellectuel est provoquée par une société en divorce avec elle-même. Cette scission disparaîtra même s'il reste une distance entre la théorie et la pratique. Peu à peu, on arrivera à ce que l'intellectuel ce soit tout le monde. Les hommes qui agiront seront des hommes politiques et comprendront pourquoi ils agissent comme ils font. Ils seront donc des intellectuels. Leur manière de se conduire ne sera plus en contradiction avec leur manière d'être. Il y a une différence entre la manière d'être, c'est-à-dire d'être ce qu'on est, et puis se conduire, c'est-à-dire de se faire autre qu'on est pour obtenir un but. Il faut que les deux s'accordent.
Et puis notre dernier extrait. Sartre s'exprime à propos de l'homme révolutionnaire. Ça peut paraître lointain, surtout chez celles et ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Mais il n'est pas dit que ça ait perdu toute pertinence et toute actualité.
L'homme révolutionnaire, nous en avons à peu près défini certaines priorités. La première priorité me paraissant être le rejet de plus en plus radical de toute contrainte imposée à l'individu par une classe qui n'est pas la sienne. La classe bourgeoise assujettit la classe ouvrière à certaines normes et à un certain nombre et à un certain mode d'action. Elle ne se soucie pas de la dégradation humaine qui en est la conséquence. Cette dégradation est une des causes essentielles de la révolution. La classe opprimée se rend compte, dès qu'elle ouvre les yeux, le matin, de l'oppression qui lui vient d'ailleurs, oppression qu'elle veut détruire. La situation actuelle est une situation révolutionnaire, en ce sens que jamais dans l'histoire bourgeoise, et qu'en période de non-action violente, le travail n'a été plus contesté. Occupation d'usines, PDG emprisonnés par les ouvriers qui occupent l'usine, grève violente, des réalisations comme l'IP, organisations faites par les ouvriers eux-mêmes, luttes ouvrières qui secouent la bourgeoisie. Bref, nous sommes dans une période qui ne ressemble à aucune autre.
Avant de conclure, un mot quand même concernant Sartre et le bassin minier du Pas-de-Calais. Le 4 février 1970, la fosse 6 de Fouquier-lès-Lens est le théâtre d'une catastrophe minière meurtrière. 16 morts, 12 blessés, 40 orphelins. Alors que les houillères parlent de fatalité, la CGT mineure accuse les conditions de sécurité jugées défaillantes et les Mao de la gauche prolétarienne préparent un tribunal populaire autour d'une question « 16 mineurs sont morts, qui sont les coupables ?» Ce tribunal se tient le samedi 12 décembre 1970 à la salle Richard à Lens. Et c'est Jean-Paul Sartre qui prononce le réquisitoire avec ces mots. L'État patron est coupable. La direction et les ingénieurs responsables de la fosse 6 sont ses exécuteurs. C'est intentionnellement qu'ils choisissent le rendement plutôt que la sécurité, c'est-à-dire qu'ils mettent la production des choses avant les vies humaines. Fin de citation. Nous terminons donc cette émission à l'occasion des 40 ans de la mort de Sartre par cette évocation de sa participation au tribunal populaire de Lens en 1970. Je vous rappelle que vous pouvez compléter cette écoute en vous rendant sur notre site micro-rebelle.fr et télécharger ou podcaster des extraits d'archives de l'INA ou d'une émission de Radio-Canada dans lesquelles Sartre s'exprime sur qu'est-ce que l'intellectuel, sur la guerre du Vietnam, sur le tribunal Russell, sur le refus du Nobel de littérature et sur l'Algérie.
Dès midi, la foule a commencé à se rassembler devant l'hôpital Brousset où le philosophe s'est éteint mardi dernier. À 14 heures, pour la levée du corps, ils étaient déjà à près d'un millier dans l'étroite rue d'Ido. Des jeunes, beaucoup de jeunes, mais aussi des hommes et des femmes de toutes conditions, anonymes ou personnalités, comme vous venez de le voir, personnalités du monde artistique, politique ou encore littéraire. Tous, en tout cas, sont venus à titre individuel. Jean-Paul Sartre avait toujours souhaité qu'il n'y ait aucune délégation, aucun représentant officiel à ses obsèques. Sa volonté a été respectée. À peine a-t-on pu remarquer quelques inscriptions sur les gerbes accrochées sur le fourgon, celles des journaux de Libération et de la revue Les Temps modernes que Sartre avait animée et dirigée. Et aussi une gerbe de l'île de Lumière, le bateau pour le Vietnam. Jean-Paul Sartre, en effet, avait participé activement à cette campagne qui avait permis de sauver plusieurs centaines de réfugiés.
Sartre, l'anticonformiste, lui qui refusait les hommages, les distinctions, Sartre qui avait refusé le Nobel en 1964, Sartre qui ne voulait pas d'obsèques nationales, n'aura pas eu de toute façon un enterrement comme les autres. La spontanéité, la simplicité d'une foule silencieuse aura tout de même donné à cette cérémonie une grandeur chaleureuse, un hommage sans faste, mais tout empreint de dignité. Celui qui toute sa vie s'est battu pour la dignité de l'homme, pour la liberté, ce philosophe qui aura été de tous les combats, ce chercheur et inventeur des libertés, cet homme parmi les hommes aurait sans doute aimé être ainsi, entouré par une foule anonyme, car c'est à cette foule qu'il appartient.
Sur les 3 kilomètres du parcours, cette foule n'a cessé de grossir, toujours aussi digne et silencieuse. Spontanément, des jeunes gens ont fait une sorte de service d'ordre autour du fourgon mortuaire pour canaliser le flot des Parisiens. 15 000, 20 000, 25 000, on ne sait pas très bien.
For your Mars, I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically. Giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my